Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Gaumont, Fabienne Pascaud et Jean-Christophe Brianchon pour parler ensemble de Ça ira 1, fin de Louis. Écriture et mise en scène, Joël Pommerard, en ce moment au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Trissotin, Les femmes savantes d'après Molière, mise en scène, Macha Makeyev à la Scala Paris. Le voyage de Gemma Storna d'après Federico Fellini, mise en scène à Marie Raymond à la Comédie Française dans sa salle du Vieux Colombier. Il y aura un coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon ce soir pour Lille du collectif Bajour. Et nous ouvrons cette dispute avec Ça ira 1, fin de Louis. Écriture et mise en scène. Alors, écriture collective avec Joël Pommerat, on va en parler. Mise en scène, Joël Pommerat. Nous avions parlé de ce spectacle à sa création en 2015. Depuis, il a beaucoup tourné, comme d'ailleurs toutes les créations de Pommerat. Il revient cette fois au théâtre de la Porte-Saint-Martin jusqu'au 2 juin. Encore un beau pari pour ce théâtre privé qui a opéré, on l'a souvent dit, une mue très importante depuis qu'il est dirigé par Jean-Robert Charrier, jeune patron de 35 ans, qui avait d'ailleurs déjà présenté Cendrillon. Du même Pommerat, pour parler de ce spectacle, Fabienne Pascaud, est-ce que vous pouvez résumer le projet de ce spectacle ?
Alors le projet de Pommerat, ça n'était pas de raconter la Révolution française telle qu'on la connaît, mais c'était de raconter comment peut naître une démocratie, les enjeux qu'elle pose, en s'appuyant pas comme d'habitude certains le font sur l'Orestie, mais là ouais. En revenant à la matrice de l'histoire française qui est quand même 1789, la Révolution. La prise de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme. Donc, ce qui l'intéresse dans ce spectacle, ça n'est pas le peuple, comme on lui a beaucoup reproché, mais c'est la classe politique et comment on fait de la politique, comment naît la démocratie.
On va voir si les reproches seront autour de cette table. Et on va aussi écouter ce que disait Joël Pommerat au micro de Joël Gaillot. C'était il y a une semaine à peine dans Une saison au théâtre.
Bien souvent, au théâtre, par définition, l'écriture d'une pièce se ressent beaucoup. Moi, j'ai toujours cherché à casser cet aspect qu'on pourrait dire confortable de la relation du spectateur à la représentation, qui peut lui donner l'impression qu'il est dans un bateau qui a son cap défini d'avance et qu'on peut déjà anticiper. Non, je mets le spectateur dans une situation, pourquoi pas, de danger par rapport aux événements qui peuvent être amenés à se produire d'un moment à l'autre. Donc, je voulais reproduire ça avec cette histoire sur la Révolution, en sachant que là, la différence, c'est que le spectateur allait venir avec une idée préconçue sur ce qu'on allait lui raconter, et donc d'essayer de lui faire perdre ses repères et de le remettre dans une situation du présent, de présent qui s'accomplit sous ses yeux.
Joël Pommerat, il y a une semaine, au micro de Joël Gaillot. On va débattre, bien sûr, autour de ce spectacle. Ça ira fin de Louis. D'abord, un premier tour de table, une phrase pour exprimer votre sentiment sur ce spectacle, Lucille Gaumont.
Je crois que c'est pas seulement un grand spectacle politique, c'est aussi un moment politique important.
Jean-Christophe Brianchon.
C'est pour moi une pièce comme je l'avais pensé en 2015, la première fois que je l'ai vue, qui se refuse totalement au théâtre.
Bon, Fabienne Pascaud.
Ah, moi, c'est pour moi un des plus éblouissants moments de théâtre, Jean-Christophe, qu'il m'ait été donné de voir ces dernières années.
Alors, pour mieux comprendre encore, avant de vraiment lancer le débat, Lucille Gaumont, expliquer un peu le dispositif. On peut parler de ce mot-là, mis en place par Pommerat pour ce spectacle.
Alors, c'est un spectacle qui est assez long, qui a été beaucoup élaboré au plateau, donc au travail avec tous les comédiens qui sont nombreux, ainsi que des historiens, nombreux aussi, qui ont donné des documents, qui ont participé à l'élaboration du texte. C'est un texte extrêmement dense, qui se joue sur une scène assez ouverte. Alors, il y a des pans de murs gris qui se reconfigurent au gré du spectacle. Il y a assez peu de choses, en fait, sur la scène. Quelques chaises, de temps en temps, une ou deux tables qui servent de table de réunion. Les personnages sont habillés en costumes tout à fait contemporains, assez froids, gris, costume cravate, ou dans des tenues assez banales d'aujourd'hui quand il s'agit pas de gens d'institution, mais de simples citoyens. Et ça parle beaucoup, ça s'invective beaucoup. Il y a des grands pans de discours qui s'assument face salle, et la salle est totalement elle-même mise à contribution. C'est pour ça que bon, on va en parler avec Jean-Christophe Brianchon. Je trouve que justement c'est un grand texte de théâtre pour ça, parce que il y a des comédiens qui sont tout le temps un petit peu partout dans le théâtre, qui applaudissent, qui
disséminés parmi les spectateurs.
Voilà. Et la lumière, bon, on en reparlera aussi peut-être. La lumière est extrêmement importante. Parfois, elle est très souvent complètement allumée, ce qui fait qu'on est totalement dans la participation aux débats, qui sont en effet les débats qui ont surtout agité l'Assemblée, d'abord Assemblée des tiers états, puis dite Assemblée nationale, sur 2 ans, donc une densité d'événements incroyable, 89-90.
Pourquoi alors ce grand moment de théâtre selon vous, Fabienne Pascaud ?
Eh bien, parce que le sujet n'est pas facile, hein. Lucille vient de très bien l'expliquer, et on est fasciné comme si on assistait à une série. On est de bout en bout dans le suspense, alors qu'on sait ce qui va se passer, on connaît la fin. Et alors le miracle de la mise en scène de Pommerat, c'est qu'il nous parle du passé au présent. Jamais il ne ramène le passé à nous, mais il nous en parle comme si on le vivait. Et ça, c'est prodigieux. Alors, il n'y a pas de personnages connus, on va pas voir Robespierre, Danton, Saint-Just, Marat, tout ça. Ce sont des anonymes qu'on découvre, comme le découvraient les gens à l'époque. Il y a que le roi et la reine qui sont identifiés, alors qui sont d'ailleurs deux comédiens magnifiques, prodigieux. Le roi, on le reconnaît parce que Louis XVI mesurait 1m96, ce qui était quand même très étonnant à l'époque, et c'est en effet le plus grand comédien de la troupe qu'il incarne. Et tout ça, c'est une pièce chorale écrite alors superbement, alors ce qui est éblouissant et ce qui surprend les spectateurs, parce que la salle est enthousiaste, la salle participe, la salle applaudit comme les comédiens qui sont placés dans la salle applaudissent, la salle se prend au jeu, se mêle et reconnaît. C'est une sorte de miracle et de prescience qu'a eu Pommerat, le visionnaire, lui qui d'habitude raconte l'histoire de France, mais toujours à partir de choses plutôt intimistes. La pièce, elle résonne aujourd'hui comme si c'était hier, avec tous les événements que la France a traversés. Alors il faut dire que la pièce a été écrite par Joël Pommerat en janvier. Il a commencé en 2015 avec les événements du Bataclan, avec les événements de Charlie Hebdo, ensuite le Bataclan, ensuite Nuit debout. Donc il a forgé sa pièce à partir d'improvisation, comme l'a dit Lucille, et pendant 2 ans de travail, mais avec tout ce qui se passait en France, sans doute en résonation, en écho. Et là, il dit n'avoir pas changé un mot en 2019 de ce qu'il avait écrit à partir des improvisations de ses comédiens en 2015. Et c'est d'une vérité étonnante. On est saisi aussi, on est saisi parce que le spectacle nous dit d'aujourd'hui. Et on cherche la moindre astuce, évidemment, qui peut évoquer la parole politique d'aujourd'hui.
Alors avant que j'intervienne moi aussi, Jean-Christophe Brianchon, alors, pourquoi c'est pas du théâtre pour vous ?
Alors non, évidemment, c'était une accroche un petit peu facile, peut-être.
C'est pour développer maintenant.
Pour autant, je voudrais pas dénier ou renier à Joël Pommerat le talent qu'il a eu d'écrire avec ses équipes ce texte qui est effectivement, si ce n'est un grand texte, en tout cas un texte intéressant. C'est plutôt sa mise en espace, plus que mise en scène, je dirais, qui me pose problème, et le rapport qu'il entretient ici avec le réel, puisque au lieu d'être cette matière dont l'artiste s'accapare pour la digérer puis la régurgiter face à un public qui, grâce à lui, verra ce réel différemment. Ici, le réel est au centre de tout, et l'espace du plateau n'est rien d'autre que l'espace où le réel se rejoue. Alors se rejoue peut-être de manière fantasmatique, peut-être de manière symbolique, peut-être, mais toujours le réel se rejoue, et jamais rien d'autre ne nous est montré. Ici, toujours on marche sur un fil qui très clairement n'est entouré que du monde dans lequel on vit et n'est entouré que du présent justement dans lequel on
nous met. Mais quand c'est du réel qui produit de l'utopie, est-ce que c'est vraiment encore du réel? Enfin, les frontières avec le vrai, le faux, la fiction, tout ça, c'est intimement mêlé.
Ce qui me dérange, c'est que la création de cette utopie est faite par le réel, mais pas par le théâtre. Ici, le théâtre ne m'apporte rien d'autre que ce que le réel a pu m'apporter à travers cette histoire et à travers notre quotidien. Je ne comprends pas ici la nécessité concrète de la formalité du théâtre.
Qu'il arrive à nous passionner pour ça, qui est quand même pas franchement rigolo.
Mais on ne parle que du sujet. Là, ok. Alors c'est vrai, je finis passionné par cette histoire.
Mais on voit une démocratie en train de naître.
Je la vois, oui, mais je la vois pas, je l'entends. Ce que je vois, en tout cas, c'est rien d'autre que ce que j'entends. Et ça me dérange, puisque ce que j'entends, c'est une histoire qui se rejoue, finalement. Et bon, je ne la connais pas particulièrement, parce que je suis pas historien, et en l'occurrence, il y a plein d'éléments sur lesquels j'étais tout à fait largué dans cette pièce, je dois bien le reconnaître. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de choses, mais qu'est-ce que je suis d'autre qu'un ancien étudiant un petit peu oublié de l'histoire de son pays?
On n'est jamais largué, c'est la force de Pomera pour moi.
Non, c'est le comment.
Surtout, alors là, vraiment, je rejoins pas du tout sur l'espace, parce que je me suis vraiment dit pendant tout le spectacle que ce spectacle, il fait de la révolution un espace, justement. La question de l'espace, elle est omniprésente. Elle est présente dans le texte, il est tout le temps question de se rejoindre, s'exclure. Bon, il y a ce grand passage qui est un moment déterminant de la Révolution française où l'Assemblée du Tiers-État invite, enfin, somme les deux autres assemblées, donc la noblesse et le clergé, de les rejoindre pour former l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une question d'espace. Et quoi d'autre que le théâtre pour le représenter? Et c'est parfaitement bien fait. De la même manière, la question de la violence, elle affleure, elle monte à chaque fois par séquence. C'est vraiment très rythmé. C'est-à-dire que elle est dans les mots et puis au bout d'un moment, elle est dans les corps. Et ça, de la même manière, c'est, pour le coup, c'est pas que du théâtre de texte. On voit à quel point, à des moments donnés, ça achoppe, la parole ne supporte plus la violence des mots et du coup, s'engage de vraies confrontations de corps à plusieurs reprises. Ça se tape, les types en cravate commence à se taper sur la scène. Et puis ne serait-ce que la mise en espace, le fait qu'on ait cet effet stéréo avec les applaudissements et tout ça, franchement, ça fonctionne parfaitement pour inclure le spectateur.
Ah, mais ça fonctionne bien comme un beau spectacle de Robert Hossein.
Il illustrait, c'est pas comparable. Il racontait avec des images banales et le plus ressemblantes possible. Là, il se décale sans arrêt de la réalité, puisque le seul lien possible avec la révolution, c'est quoi? Ils sont habillés en costume moderne. La seule chose dans les accessoires, c'est les perruques. Il doit y avoir des centaines de perruques. La seule chose dont les comédiens changent, c'est les perruques. Et quelle virtuosité d'acteur pour arriver à figurer tous ces personnages.
Il y a plein de choses que je ne remets pas en cause. Hein. Le jeu des comédiens et entre autres...
Et même la situation dans leur salle, comme l'évoquait Lucille tout à l'heure. À savoir placer les comédiens à ce point-là dans la salle pour faire des effets stéréo, comme à l'IRCAM, de spatialisation de l'espace. On ne sait jamais où ils vont intervenir. C'est magistral. C'est magistral.
Lucille Gomobou.
Pour le coup, le fil dont vous parliez, ce qui est en effet, qui est très très ténu et c'est dangereux sur lequel fonctionne le spectacle, c'est entre l'abstraction totale de ces personnages en costume gris qui pourraient être de partout et de nulle part. La Bastille, par exemple, est tout le temps appelée la prison centrale. Il est jamais question de Bastille. Necker, il a pas le nom de Necker, etc. Et ça, entre la précision historique et cette abstraction-là se joue à un niveau d'acuité politique qui est quand même fabuleux. Là, on parlait des gilets jaunes. Évidemment, la résonance, elle est évidente. D'ailleurs, quand je suis allée samedi soir à la fin du spectacle, qui se situait juste à côté de la place de la République, où venait d'avoir lieu des affrontements avec la police, il y a un gilet jaune qui est tombé du balcon au moment des applaudissements. Évidemment qu'elle est évidente. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que ça pourrait être joué n'importe quand, n'importe où. On trouverait le même niveau d'acuité et le même niveau de référence, de réflexion sur la violence, sur la légitimité de la violence, sur ce que c'est que le terrorisme en période révolutionnaire. Tout ça, c'est quand même assez fabuleux d'avoir réussi à faire ça.
Mais au-delà de ça, il y a la question de la fiscalité qui est quand même aussi centrale, la question du patrimoine des élus, la question de la dictature des sondages. Enfin, moi je ne l'ai pas revu, je l'avais vu en 2015, ça sonnait ou résonnait évidemment déjà très fort. Mais pour ce qui est de la dimension théâtrale, moi ce que je trouve assez beau aussi avec ce spectacle, c'est que Joël Pomera, il a quand même remis beaucoup de choses un peu peu établi son théâtre sur l'établi pour vraiment changer les choses, que la forme est quand même très différente de tout le théâtre de Pommerac qu'on pouvait connaître, fait de noir comme ça, qui permettait de changer d'espace, enfin une sorte de chose un peu magique. Là, on est quand même dans une forme de réalisme qui, moi, je trouve nous embarque beaucoup, et en même temps, on parlait de du roi et de la reine, qui sont un peu les seuls personnages vraiment identifiés, mais ce que j'avais noté, c'est que ces personnages-là, ils parlaient comme dans les anciennes pièces de Joël Pommerat. Ils n'ont pas eu tout la même qualité d'écriture ou de parole que les autres, qui sont dans une forme de présent. Eux, ils sont d'un autre temps, comme d'un autre temps de l'écriture de Joël Pommerat. Et je trouve que là, déjà, théâtralement... Rien que de ce point de vue-là, il se passe aussi des choses. Lucille, comment ?
Oui, alors justement, moi, c'est ce que j'ai peut-être le moins apprécié dans le spectacle. Ce sont ces scènes, et elles mettent en effet souvent en jeu le roi et la reine, qui sont un petit peu plus psychologisantes, ça allait un peu loin,
oui.
Mais quand même, qui donnent une épaisseur au personnage. Il y a un moment où, donc, en 89, le dauphin meurt. Et donc, du coup, il y a une scène sur la mort du dauphin avec le roi et la reine. Et ce moment-là, qui donne un tout petit peu dans le pathétique, où affleure, disons, le caractère des personnages, alors que tous les autres sont vraiment des outils au service de la parole, quoi, vraiment du pur verbe, sont peut-être un petit peu trop. Alors je pense qu'il a fallu équilibrer, parce que sinon ce serait dur à écouter 4h30
de joute politique. C'est un long spectacle, même s'il y a deux entr'actes.
Tout à fait, donc il y a des petits effets un peu comiques de temps en temps.
Oui,
que
ça fait partie.
Bah, voilà. Alors, je suis d'accord, je trouve pas que c'est mauvais, mais ça m'a moins plu, et j'y ai trouvé une petite incohérence parfois. Mais
comme c'est la correspondante espagnole, il y a un moment raconté où le roi qui se fait photographier, qui se fait faire un selfie. Mmh. Mais ça fait partie aussi du plaisir du spectacle, du mélange des genres, pour une période tourmentée, un côté un peu shakespearien, comme ça. Ce que j'aime, moi, c'est l'effort de Joël Pommerat de venir à un théâtre épique, qui n'était pas du tout son style.
Pas vraiment.
Et là, il arrive à trouver cette dimension épique. Alors là, il y avait évidemment le grand exemple du 1789 de Mouchkine, il y a 50 ans, mais elle avait pris le parti pris du peuple.
Ouais.
Et lui, il prend le parti pris de la classe politique. Et c'est beaucoup plus compliqué.
Jean-Christophe Briançon.
Non, je pense qu'on n'arrivera pas à être d'accord. Mais pour autant, il y a bien un élément sur lequel je suis d'accord avec Lucille et sur lequel je tiens à insister. C'est le travail d'Éric Soyer qui, toujours, les lumières et la scénographie.
Et la scénographie
en particulier les lumières. Je tiens Éric Soyer pour un très, très grand artiste du théâtre d'aujourd'hui. Et ici encore, ça se vérifie comme toujours, ces lumières sont impeccables, vraiment magnifiques.
Lucille Comeau.
Je rebondis sur ce que disait Fabienne, il ne prend pas tant le parti de la classe politique en dehors de celui du peuple, que c'est la question de la représentation.
Oui,
c'est
la
ça.
Représentation.
Et en fait, la question de la représentation, si ce n'est pas théâtral, enfin, je ne sais pas ce que c'est.
Ce qui en effet, in fine, pour moi, ne l'est pas assez, puisqu'on ne fait que de parler de ce que cette pièce peut nous permettre de penser et de ressentir du passé et de notre présent. Moi, je ne suis pas au théâtre pour penser seulement mon présent, mais je suis aussi au théâtre pour voir des images et voir un artiste qui parvient à occuper l'espace jusqu'à le faire devenir irréel, jusqu'à faire venir ces planches de théâtre autre chose que le réel qu'elles sont, que ces planches de bois. Là, ici, j'ai eu des planches de bois sur lesquelles des artistes venaient me décrire une histoire que je n'ai pas forcément envie d'entendre. J'aime pas tellement qu'on me raconte des histoires. Là, on en a raconté une.
Ah bon ? Ah ouais, c'était un grand... une grande déclaration.
Oui.
Je n'aime pas tellement qu'on me raconte des
histoires. Non, c'est vrai, je ne vais pas au théâtre pour me faire raconter des histoires.
C'est quand même le lieu où on raconte aussi des histoires.
Aussi, mais pas du tout seulement. Et moi, je n'y vais pas que pour ça.
Tout dépend de la manière dont on les raconte.
On sent que ce soir, ça va être votre bonheur, cette émission de la dispute, quand on voit la suite du programme. Bon, nous parlions de Ça ira 1, fin de Louis. D'ailleurs, cet après-midi sur Twitter, un de nos auditeurs disait, c'est quand le 2 ? Oui, Ça ira 2, on verra.
Alors, a priori, il n'y aura pas de 2,
oui,
d'après ce qu'on
ouais,
a dit.
Oui, mais vous savez, avec Pommerat, les a priori sont faits pour être bousculés.
Un entretien qu'il a donné il y a une dizaine de jours disait qu'il n'y aurait pas de 2.
Mais vous croyez les artistes
s'il avait les moyens. Nous, il nous a dit à Télérama que s'il avait les moyens, peut-être il le ferait. Il nous a dit ça il y a 8 jours.
Mais comme s'il fallait prendre pour argent comptant ce que disent les artistes.
Jamais.
Bon. Vous devez le savoir quand même. En tout cas, le 1, il est à l'affiche de la porte, du théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est jusqu'au 2 juin. Nous allons parler dans cette émission à suivre de Trissotin, de Mastorna et du collectif Bajour.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée au théâtre ce soir pour parler à présent de Trissotin ou les femmes savantes d'après Molière, mise en scène par Macha Makeyev jusqu'au 10 mai à la Scala Paris. C'est un spectacle qui a été créé en 2015 aux Nuits de Fourvière. Cette mise en scène de Macha Makeyev, elle a déjà connu un succès international parce qu'elle est sortie largement de nos frontières. Jean-Christophe Brianchon, résumé de l'intrigue.
Bah, l'intrigue, elle est connue peut-être de certains de nos auditeurs, ouais, j'imagine. C'est les femmes savantes de Molière, donc qui s'ouvre sur l'annonce d'Henriette de son désir d'épouser Clitandre, annonce qu'elle fait à sa tante. Suivra cette annonce une sorte de, c'est un petit peu moins violent que ça, mais une sorte de guerre des tranchées entre la partie de la famille qui soutiendra cette union, en l'occurrence donc son père et son frère, le père et le frère d'Henriette, et le reste de la famille qui constitue ce groupe de femmes savantes, justement, qui dans l'acception habituelle de la pièce de Molière sont un petit peu tournées en grotesque voilà, on y voit une certaine patte misogyne de l'auteur, peut-être d'une certaine manière. Ici, c'est pas réellement le cas. En tout cas, ces femmes savantes seront, elles, celles qui s'opposeront à l'union d'Henriette et de Clitandre.
Premier tour de table rapide hein, pour vos impressions sur ce spectacle, Fabienne Pascaud.
Encore une pièce créée en 2015, comme le Ça ira fin de Louis, ouais. C'était décidément une bonne année, un bon cru. Moi, j'ai revu le spectacle, j'ai été toujours aussi enchantée par l'intelligence du parti pris de Macha Makeyev, et ça m'a... moi, j'étais de celles qui croyaient que la pièce était un peu misogyne, et grâce à Macha Makeyev, j'ai compris que c'était beaucoup plus complexe que ça.
Vous allez me dire pourquoi dans un instant. Lucille Comeau.
Alors moi, c'est pas une pièce de Molière que j'aime beaucoup, mais en l'occurrence j'ai passé un bon moment.
C'est pas mal comme résumé. Jean-Christophe Brianchon.
C'est une pièce qui fonctionne un peu comme un diesel, qui met du temps à démarrer, à trouver sa route, mais qui finalement trouve une route exacte.
Excusez-moi de vous interrompre tous les deux brutalement, mais pour moi, c'est stylistiquement une des plus belles pièces de Molière. Une espèce d'une sorte de perfection dans l'Alexandrin.
Est-ce que vous parlez de la pièce, Jean-Christophe,
oui,
ou est-ce que vous parlez de la production?
Moi, je parle de la production
dans
de Macha Makeyev.
Dans les vers, moi,
je parle pas du texte. Hein,
Non. Du texte.
Bon, soyons clairs.
Et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes voeux. Come again, sweet love doth now invite. Thy grace is that refrain to do me do delight to see, to hear, to kiss, to touch, to cry. Je vois où doucement veut aller la demande, et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite, et pour n'en point sortir aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir, je dirai qu'Henriette à l'hymen est rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle.
Et madame, à quoi bon un pareil embarras? Pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas?
Mon Dieu! Cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on ait contente du détour dont s'est adroitement avisé votre amour, et que sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage. Pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés.
Mais...
Adieu! Pour ce coup, ceci doit vous suffire. Et je vous ai plus dit que je ne voulais dire.
Mais votre erreur...
Cessez ! Je rougis maintenant. Et ma pudeur s'est faite un effort surprenant.
Je veux être pendu si je vous aime, et sage.
Non, non ! Je ne veux rien entendre davantage. Oh,
voilà, Voilà, ça c'était un extrait d'une représentation de 2016 au Théâtre National de La Criée. Alors Cyclie Tendre est toujours Ivan Ludlow, Belize, ce n'est plus Thomas Morris, mais c'est, si mon regard est bon, Anna Steiger.
En alternance avec Jeanne-Marie.
Voilà, merci à vous. Fabienne, vous disiez votre plaisir, il passe pour le coup par les partis pris de Masha Makeyev. Alors vous disiez que ça avait peut-être changé votre lecture de la pièce. Alors quels sont les partis pris de Masha Makeyev?
Oui, parce que moi j'accusais un petit peu bêtement Molière d'être assez misogyne dans cette pièce et de caricaturer un peu dans
c'est
les...
C'est pas votre genre pourtant de dire que les gens sont misogynes ou snobs. On vous connaît Fabienne.
Vous en savez quelque chose. Dans la lignée des précieuses ridicules du début de sa carrière et à la fin de sa carrière, puisque la pièce date de 1672, il est mort en 1673, donc c'est son dernier feu là qu'il livre, et c'est pour ça que moi, contrairement à mes deux camarades, j'ai beaucoup aimé l'écriture, que je trouve vraiment quasiment mozartienne dans sa transparence et sa délicatesse. Donc pourquoi j'ai trouvé le parti pris de Masha Makeyev très très intéressant? D'abord, elle montre, elle transcrit la pièce dans les années 60-70. 1960-70. Pourquoi? Parce qu'elle y voit la dénonciation chez Molière en fin de parcours, donc comme je viens de le dire, de la famille bourgeoise. Mmh. Et en fait, c'est pas les femmes savantes selon elle que Molière moque, mais cette famille bourgeoise tiraillé par l'hypocrisie, la lâcheté, les non-dits, les secrets. Et surtout, ce à quoi cette famille ne sait pas faire front, c'est l'émergence des femmes et le désir fou des femmes. Et c'est ça qui bousille la famille traditionnelle française du XVIIe siècle. Alors, c'est dans la lignée des femmes baroques, hein, les femmes aussi bien chez Shakespeare, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais dans tout le théâtre français baroque du début du XVIIe siècle, les femmes, c'est des monstresses, sexuellement, elles en redemandent à chaque instant, elles tuent, elles assassinent. Et là, les femmes de Molière, non seulement, en plus de cette énergie vitale des femmes du début du XVIIe, elles ont un appétit de savoir énorme. Elles veulent tout connaître, elles sont ivres de découvrir le ciel, la poésie, la lecture, les expériences. Et donc, ces femmes qui ont envie de tout, dont on a déjà montré la violence, ben, ça se révèle des espèces de femmes qui font basculer la société du temps. Et les hommes, y compris Chrysale, même le frère, sont totalement impuissants. Et la famille, elle risque de basculer. Tranquillisons-nous, Louis XIV sera là, le pouvoir absolu, ça va s'arrêter très vite. Mais ce que j'aime dans la mise en scène de Masha Makeyev, c'est qu'elle montre un point où s'il n'y avait pas eu le pouvoir absolu après, eh ben on était peut-être un point où la société française risquait de basculer et les femmes peut-être de prendre le pouvoir.
Jean-Christophe Briançon, pensez-vous de ce regard livrant le vôtre?
Je suis assez d'accord, parce que bon, tout à l'heure je parlais de la pièce, évidemment de la production, donc comme on l'a dit, mais je remets pas en cause la qualité textuelle de cette œuvre de Molière, bien sûr. Et en l'occurrence, je la remets d'autant moins en cause qu'ici, justement, effectivement, de la même manière que Fabienne, j'ai vu une pièce qui, malgré tout, puisque comme je le disais dans la petite phrase d'accroche, je pense que c'est qui a du mal à démarrer un petit peu, qui prend son temps, qui les acteurs aussi ont mis le jour où j'y suis allé, du temps à s'emparer des alexandrins et de cette langue, puis petit à petit ont trouvé leur chemin. La mise en scène aussi trouve son chemin, le rythme, le parti pris de Masha Makeyev apparaît de plus en plus, jusqu'à faire de ces femmes une forme de groupe espiègle qui va justement petit à petit s'infuser au sein de cette famille pour d'une certaine manière faire valoir leur point de vue. In fine, elles n'y arriveront pas, puisque la pièce se termine comme certains d'entre nous le savent, j'en dirai pas plus.
Voilà.
En tout cas, voilà, les femmes, y compris dans la direction d'acteurs qui est proposée par Masha Makeyev, occupent une place qui est bien, bien différente, je pense, ou en tout cas bien différente de l'image que j'avais de ce texte.
Lucille Comeau.
Oui, là, c'est ce qui fonctionne très bien, en fait, c'est la manière dont Masha... dont Masha Makeyev s'empare de ce texte pour en faire quelque chose de très incarné. À la fois, ces personnages, et y compris les femmes savantes, sont des corps, vous le disiez Fabienne, ce sont des bourgeoises avec des corps, elles sont habillées de manière extrêmement sensuelle, y compris la mère, je me souviens plus de son prénom, la mère des deux filles, qui est une sorte de bourgeoise extrêmement bien coiffée avec une combinaison. Trissotin est une sorte de gourou un peu new age qui arrive sur scène avec des cheveux extrêmement longs et qui est voilà, qui a des blouses grandes ouvertes sur le torse nu. La question du corps est est extrêmement mise en jeu, et ça c'est très intéressant parce que ça décale totalement la question qui est souvent en effet traitée comme une question de classe. Là c'est vraiment le snobisme d'une classe bourgeoise des années 60 qui est dénoncée dans un décor, comme toujours chez Masha Makeyev, extrêmement accessoirisé. Il y a des choses à peu près partout, ça virevolte beaucoup, ça entre, ça sort, il y a des jeux de porte, il y a des bruits de téléphone, il y a de la musique. Tout ça, je trouve, est extrêmement intelligent. Moi, j'aime pas toujours ce qu'elle fait, parce que je trouve que souvent, c'est très chargé et ça couvre un peu le texte. Là, je trouve que quasiment tout le long de la pièce, ça fonctionne parfaitement. J'ai beaucoup pensé à Tati, par exemple, parce que c'est dans Mon Oncle, c'est exactement ça. C'est cette espèce de bourgeois hyper snob qui ont tous les derniers, les petits accessoires, les appareils dernier cri. Là, de la même manière, elles utilisent la langue et la grammaire, la chimie, comme des meubles, des petits objets dernier cri qu'elles auraient pu acquérir avec de l'argent, quoi, de la monnaie sonnante et trébuchante. Il y a juste une chose, je trouve, qui est dommage. C'est que le centre de la pièce de Molière, c'est ce moment où Trissotin, d'ailleurs la pièce là s'appelle Trissotin, arrive et déclame d'abord un sonnet, le sonnet de la fièvre, puis un épigramme. Et là, on est tellement surchargé d'effets de musique, d'effets de micro, d'effets de bon, lui évidemment, on a envie de le regarder parce qu'il est incroyable, que on entend à peine le texte. Et c'est un peu le cœur de la pièce, quoi. La question de la langue, du ridicule potentiel dans la langue. Je trouve ça dommage parce que du coup, à partir de là, moi je suis un peu à l'inverse de Jean-Christophe Brianchon, mon intérêt a un peu décru.
Oui, parce que c'est vrai qu'il faut bien dire qu'ils en font beaucoup, les unes et les autres.
Ah oui, c'est drôle.
Oui, mais moi j'ai pensé, le décor y incite aussi à Claude Jansac pour Marie-Armelle de Guy. J'aurais vu effectivement Louis de Funès qui aurait pu faire son mari. C'est ce type de jeu-là, des comédiens exceptionnels, hein, je ne dis pas ça de façon péjorative, bien au contraire. Il y a cette dynamique-là, alors on est quand même dans un autre temps malgré tout. Ce sont des codes de jeu qui sont très inscrits, et même s'ils sont relus à l'aune du contemporain, et en effet je crois que c'est les préjugés misogynes qu'on pouvait avoir. Ça vous arrive rarement, Fabienne, mais donc, comme je le disais tout à l'heure, si les hommes et les femmes sont renvoyés dos à dos, ce qui est quand même une chose à peu près logique et normale, ils sont assez ridicules les uns et les autres, aussi pathétiques les uns et les autres, et finalement assez bons. Il y a quand même une forme de bonté au sein de cette famille qui rattrape tout le monde et qui recoue tout cela ensemble. Moi, j'étais un peu gêné par le Trissotin, quand même, qui est quand même très, 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 j'arriverai pas à retrouver, c'est Geoffroy Rondeau, très, 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 très chargé. J'aurais aimé que...
C'est un Tartuffe au petit pied.
Ah, oui, mais le Tartuffe, il a quand même des nuances.
Alors, il évolue, hein. Moi, je trouve que c'est très intéressant la manière dont il évolue.
Ah bon,
ne serait-ce que dans son identité queer, qui est totalement assumée dès le départ. Trissotin, c'est un personnage qui, pour le coup, peut avoir une forme de violence, y compris de violence sexuelle envers Henriette. Leur scène, elle est extrêmement ambiguë. Oui, tout à fait.
Non, mais il y a un peu de sous-Tartuffe, un peu de sous-misanthrope. Vous parlez du sonnet. Il y a quand même des reprises de Molière où on se dit c'est peut-être quand même mieux la version originale. Hein, ne vous en déplaise, Fabienne Pascaud. Si l'Alexandrin est très beau, les situations, moi, je les trouve moins fortes à cet égard dans Tartuffe que pour ce qui concerne le sonnet dans le misanthrope. Fabienne.
C'est un auteur qui, à la fin de sa vie, se sert de tout ce qu'il a pu écrire et qu'il le remixe. Il le remixe, mais avec intelligence.
Ouais. Non, Trissotin, vous l'avez vu vous vraiment bouger dans cette production?
Oui, moi je trouve qu'il évolue dans la question de son identité, ne serait-ce que sexuelle. Je trouve que c'est intéressant. Son opportunisme se révèle aussi dans la manière dont il agit avec les femmes, et du coup même dans son corps, dans sa manière d'évoluer sur scène. Je trouve ça assez intéressant ce qu'il en fait.
Moi, je trouve que ça fait partie du burlesque auquel elle est attachée, Masha Makeyev, et qui donne une dimension de plaisir.
Mais elle est aussi capable, et on l'a vu plusieurs fois, de jouer sur des choses aussi beaucoup plus cruelles, dures, mélancoliques. Là, il n'y a pas beaucoup de place pour cela. On est quand même dans une... C'est vrai, je ne l'ai pas ressenti. En tout cas, le soir où je l'ai vu, c'est toujours pareil.
Armande a quand même son destin brisé. Elle était amoureuse de ce clitandre qu'elle a superbe.
Mais elle est assez absente là, dans cette production-là.
Moi, je trouve qu'elle est en retrait, mais enfin, sa vie est finie, sa mère s'est servie d'elle, donc les relations sont pas si simples. Mais dans le burlesque aussi, il y a cette scène de Belize qui est quand même drôle, où elle découvre l'orgasme en faisant des expériences de chimie. C'est quand même, ça peut sembler excessif et outré, mais ça fait partie du travail de Masha. Elle y va, quoi, et c'est ça qui est bien.
Ça, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Sur cette dimension, il est temps de clore ce chapitre consacré à Trissotin ou les femmes savantes d'après Molière. C'est une mise en scène, donc, on l'aura compris, de Masha Makeyev. Et c'est présenté jusqu'au 10 mai à la Scala à Paris. C'est l'heure du coup de cœur, j'attendais jusqu'au micro sourd, c'est l'heure du coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon, pour Lille. Lille L apostrophe, I accent circonflexe LE, le collectif Bajour, B-A-J-O-U-R.
Et c'est à la fois un coup de cœur pour la pièce et le collectif, parce que c'est une pièce qui a été créée en étape de travail au Festival Mythos, qui est un festival passionnant d'ailleurs, qui se passe à Rennes chaque année. Cette année donc, le collectif Bajour nous a montré une étape de travail de sa prochaine pièce, puisqu'il était sorti l'an dernier d'Avignon, fort du succès d'une pièce qui s'appelait Un homme qui fume. C'est plus sain. Ici, c'est une pièce qui marche exactement sur les pas de cette autre compagnie dans laquelle jouent une partie des gens du collectif Bajour, qui sont les Chiens de Navarre. C'est une pièce qui joue de l'absurde et à la fois du sentiment, puisque concrètement, ce sont une bande de personnes qui se retrouvent en quelque sorte naufragées sur une île, sans tellement savoir pourquoi ni comment, et qui ensemble vont reproduire et expérimenter tout ce que le monde d'aujourd'hui peut avoir de plus absurde. Alors ça va de scènes dans le monde de l'entreprise jusqu'à des scènes qui font penser à ce que pouvait être l'organisation des Nuits Debout. Voilà, tout est un petit peu malaxé, remâché, digéré dans tous les sens, jusqu'à en faire parfois n'importe quoi, mais un faux n'importe quoi, parce qu'in fine ça veut toujours dire quelque chose de très intelligent et de très beau, porté par des comédiens qui sont absolument tous remarquables, aussi remarquables que peuvent l'être pour moi ceux des Chiens de Navarre, dont certains sont plus connus que d'autres, dont Adèle Zwan, qui fait partie de ce collectif, que certains ont pu voir dans un one-woman show qui s'appelait À mes amours, qui était aussi très beau. Elle s'apprête d'ailleurs à en faire un nouveau one-woman show sur la mort, donc elle fait partie aussi de ce collectif, un one-woman show sur la mort qui accessoirement est très drôle, hein, parce que c'est dit comme je disais, c'était pas forcément très clair, mais en tout cas c'est le cas. Donc voilà, c'est un spectacle qu'on va découvrir peut-être bientôt, en tout cas l'an prochain.
C'est-à-dire c'est sûr. Il y a des informations qui ne sont pas confirmées, qu'on ne peut pas dire, c'est ça ?
Les dates et les lieux ne sont pas encore absolument certains, mais ça va venir tout bientôt en tout cas. En attendant, ceux qui le souhaitent peuvent voir quelques petites représentations qui restent à droite à gauche de Un homme qui fume, c'est plus sain. Voilà, un travail vraiment à découvrir, un collectif passionnant.
Le collectif Bajour.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier spectacle à notre affiche, c'est le voyage de Gemma Storna, d'après Federico Fellini, mise en scène Marie Raymond, c'est jusqu'au 5 mai
Au Vieux Colombier pour la Comédie Française. Donc, Marie Raymond, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, elle aime s'emparer d'icônes et les faire exister sur un plateau de théâtre. On a eu André Agassi, Barbara Loden, Bob Dylan. Cette fois donc Fellini et Marcello Mastroianni. Le matériau de départ, c'est un film rêvé par le cinéaste, jamais réalisé, jamais achevé. Mais il y avait un scénario écrit par Fellini avec Dino Buzzati et Brunello Rondi. Un documentaire qui a été réalisé sur le site des premiers essais. Il y a aussi une bande dessinée qui a été faite avec Milo Manara. Donc Marie Raymond revient sur ce projet, on va dire maudit, mais dans lequel s'originent bien bon nombre de films ensuite de Fellini, voulant rivaliser avec l'enfer de Dante, et le cinéaste va plonger son acteur fétiche, Mastroianni, ici interprété par Laurent Lafitte, dans les limbes d'une ville au contour un peu incertain. On est peut-être déjà dans un au-delà, un premier sentiment sur ce spectacle. Jean-Christophe Brianchon.
Eh bien, je dirais que c'est une pièce à la mécanique rutilante.
Fabienne Pascaud.
Un ennui apocalyptique.
On s'ennuie dans l'apocalypse. Bon. Lucille Como.
Moi, je trouve que c'est un spectacle qui est assez joli, qui est même assez virtuose à bien des égards, mais peut-être un peu vain.
On va écouter une scène dans laquelle Mastroianni répète sous la direction.
Plus dans la mesure.
Mastroianni répète sous la direction de Fellini.
Bon, le compteur de renseignement, tout le monde y est ? Quand tu veux.
Bonjour monsieur, je dois absolument rejoindre l'aéroport. Je fais partie du groupe de passagers qui a atterri ici hier soir suite à une panne de l'appareil.
L'avion n'a subi aucune panne, monsieur. L'atterrissage dans cette ville était prévu. Quel est votre nom, monsieur ?
Mastorma, Giuseppe Mastorma. Je suis violoncelliste. On donne un concert ce soir à Florence. Je dois absolument arriver en Italie avant midi. Nous avons une répétition cet après-midi.
Vous n'avez pas d'autres papiers d'identité. Celui-là ne suffit pas pour justifier de qui vous êtes, monsieur. C'est seulement un passeport.
Oui. Et c'est ça, c'est mon passeport, signé en règle. Je l'ai renouvelé il y a deux mois. Regardez, il y a tous les tampons. Enfin, quelle sorte d'autorité représentez-vous si vous refusez de reconnaître un document valide ?
Marcello, c'est bien, c'est très bien. Mais plus que ça, le passeport, tu vas tout redevenir fou, quoi. Mais enfin, c'est ça, c'est mon passeport. Signé, je l'ai renouvelé il y a deux mois. Mais regardez les tampons. Mais voilà, tu vois, un peu plus, quoi, beaucoup plus. Quand tu...
Oui, mais c'est ça, c'est mon passeport. Signé et en règle. J'ai renouvelé il y a deux mois. Mais regardez les tampons. Quelle sorte d'autorité représentez-vous si vous refusez de reconnaître un document valide? Non, ça, c'est prouvé.
Tu m'imites, là. Non, c'est quelque chose à toi. Moi,
mais c'est ça, c'est mon passeport signé en règle. J'ai renouvelé il y a deux mois. Regardez, il y a tous les tampons. Enfin, quelle sorte d'autorité représentez-vous si vous refusez de reconnaître un document valide? Je suis tombé où, là? Le portier qui refuse de prendre mes bagages, le télégraphiste qui refuse d'envoyer un télégramme parce qu'il est en train de jouer du piano, et maintenant le représentant de l'autorité, un gradé, visiblement, qui, en dépit de tous les accords internationaux, refuse de reconnaître un document valide pour s'éprouver l'identité d'un citoyen étranger. C'est le comble! Je me plains auprès de mon ambassade.
Mastroianni, c'est donc Laurent Lafitte. Federico, c'est Serge Bagdasarian qu'on a aussi entendu ici donner cette indication de mise en scène. Mais alors, au niveau mise en scène, parlons de l'espace de jeu, Lucille Como, la salle du Vieux Colombier.
Alors, qui accueille un dispositif bifrontal, donc on est autour de la scène, il y a deux rangées de gradins. La scène, l'espace de jeu est assez étroit dans cette salle du Vieux Colombier, qui n'est pas une très grande salle. Et alors, il y a deux côtés, il y a un côté avec un lit placard qui se lève et qui remonte, une coiffeuse importante avec des vêtements, des costumes dont les comédiens se servent beaucoup. Et puis de l'autre côté, il y a une sorte de module qui sert à la fois de comptoir, de bar avec des tabourets hauts. Il y a des téléphones, des accessoires qui font immédiatement signe vers les années 60 et aussi vers l'Italie, dans les costumes, dans la manière dont les personnages évoluent aussi sur scène, puisque le cinéma de Fellini est aussi sur la scène, dans le décor.
Jean-Christophe Brianchon, avant de donner la parole à Fabienne Pascaud, mais peut-être nous expliquer comment est construit ce spectacle. Je disais qu'il y a ce matériau de départ. Là, on a entendu qu'en fait, on est dans des répétitions. Comment ça s'organise ?
C'est un spectacle qui est construit de manière assez complexe, ou en tout cas qui paraît très complexe, puisque le point de départ du désir de Marie Raymond tenait dans le fait de ne pas simplement montrer les images que Fellini n'a pu faire, ne pas mettre sur scène le film qui aurait dû être fait. Donc concrètement, la pièce consiste à nous faire suivre quelques jours durant les étapes de répétition du tournage de Fellini avec ses comédiens. C'est à la fois donc supposément très simple, mais en même temps très très complexe et très malin, parce que ça nous permet à la fois d'être dans le réel du film qui aurait dû être et dans la fiction du film qui malgré tout transparaît dans ce qu'on voit. C'est assez malin.
Malin, mais apocalyptique d'ennui, selon Fabienne Pascaux.
Ah oui, moi,
pourquoi donc, Fabienne?
Pas malin du tout. Alors, pas malin du tout, du tout, du tout. Comment un scénario raté pourrait faire une pièce réussie?
C'est pas un scénario raté.
Ça, bah, c'est si... là-haut qu'il n'a pas pu
non.
être, bah, pu non, être mené à
non,
bien.
Bah, s'il n'a pas pu être tourné à bien, s'il n'a pas trouvé de producteur, s'il n'a rien trouvé, c'était bien quelque chose. Fellini pouvait se tromper aussi.
C'est parce que Fellini, dans une crise, il sortait de 8,5. Dino De Laurentiis
voulait pas non
plus.
Oui, mais enfin, il avait été triomphant avec 8,5, la Dolce Vita, oui. Il avait 45 ans. Il était au sommet de la gloire. Son scénario, il n'a pas été foutu d'aller jusqu'au bout. Mais c'est pas une attaque, c'est pas une critique.
On dit un scénario raté.
Mais c'est d'ailleurs là l'intelligence de Marie Raymond, c'est qu'elle n'a pas essayé de mettre en scène le scénario de Fellini. Elle a simplement essayé de mettre en scène l'idée de ce film.
C'est l'idée du film. De mettre en scène des idées. Alors vous, on a compris que ça vous faisait flamber de mettre en scène des idées. Mais alors là, moi, je suis restée sur mon siège. J'ai pas décollé.
Non, mais alors en l'occurrence, moi aussi, je me suis particulièrement ennuyé aussi. Donc je suis assez d'accord.
Ah, vous êtes ennuyé aussi?
Oui, je me suis ennuyé, mais je trouve.
Ah bah alors.
J'ai pas pris de plaisir à voir cette pièce pour autant.
Ah bah,
alors,
rutilant.
Alors, on est d'accord.
Oui, mais c'est rutilant, d'intelligence
mais...
et de. Et,
ah mais
de...
non, si c'était si intelligent malin, que ça, mais... vous ne vous seriez pas ennuyé du tout. Quand c'est intelligent, on décolle encore une fois.
Non. Donc, Fabienne Pascaux.
Mais moi, j'ai pas trouvé ça intelligent. D'abord parce que j'étais paumée. Je n'ai pas du tout compris l'intérêt de l'espace bifrontal qu'a bien décrit Lucille. Je vois pas pourquoi, si ce n'est pour faire chic ou si ce n'est pour faire comme tout le monde maintenant. Au vieux Colombier, mais enfin, tout le monde n'est pas capable d'animer un espace bifrontal. Là où il y a les acteurs, là où les spectateurs vous font face, vous remarquez qu'ils s'ennuient autant que vous, donc c'est pas très passionnant. Et pour les acteurs, ça ne permet pas beaucoup de finesse, de déplacement et tout ça. Pourquoi moi je me suis ennuyée? Parce que j'ai pas bien compris. Alors les frontières entre la fiction et la réalité sont poreuses, je le sais, et l'intérêt du spectacle de Marie Raymond d'habitude très subtile, très délicate, très drôle, d'une insolence fine. Là, j'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Elle veut montrer, comme souvent dans ce qu'elle fait, des acteurs au travail, des artistes au travail et l'œuvre en train de naître. Elle a peut-être été embêtée par le fait que l'œuvre n'est jamais née, et je pense que Masterlin lui a collé la poisse, quoi, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai rien compris, et comme les acteurs, je les sentais un peu embarrassés, parce qu'il y a encore une fois de cette fameuse écriture du plateau dont on parle toujours avec des sanglots dans la voix. Mais
quand c'est Pommerat, ça vous fait décoller de votre fauteuil.
Bah oui, parce que quand c'est Pommerat, c'est bon. Juste, c'est bien fait, c'est piquant. Là, ce qui se raconte,
aussi une
c'est jamais
de
clair. Chez Pommerat, tout est clair. Et c'est une écriture de plateau avec 2-3 ans de travail et d'affinement. Là, ça n'est pas le cas. Donc, bon, voilà. So what?
So what? Elle finit sur de l'anglais. Fabienne Pascaux, bravo. Je vous félicite.
J'avais
pas.
Moi-même écrit Lucille So Como. What sur mon papier. Je
ah
C'était non, pas moi, plutôt je WTF que vous avez écrit
non,
sur votre feuille?
Non, jamais de la vie. Non, moi je pense qu'elle est un peu prise entre deux feux, qui est en effet la question que moi je trouve passionnante et relativement bien faite, de montrer un film en train de se faire dans toute sa matérialité. Moi je suis toujours assez passionnée parce qu'il y a un côté assez simple du voyeurisme, disons bon ton, de regarder un film en train de se faire, où on met la caméra, comment les acteurs font pour se reprendre, c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait. Moi ça je trouve ça assez bien fait, je trouve qu'il y a une forme de virtuosité dans la manière d'amener les décors, de changer les costumes. Pour le coup, je suis pas d'accord avec vous Fabienne, sur la maîtrise de la scène, de l'espace, je trouve ça plutôt bien fait. Et la deuxième direction où à mon avis là ça va pas du tout, c'est le mythe, c'est-à-dire que c'est un projet mythique. Et du coup, elle essaye d'intégrer ce mythe dans la mise en scène. Et ça passe par des choses qui sont très artificielles et très clichés, qui sont de montrer un artiste en proie à ses démons. Alors ça, c'est extrêmement déjà vu. Alors il y a une voix off qui nous suggère une sorte de relation un peu faustienne avec un personnage qui ne sert absolument à rien, qui arrive au début puis à nouveau à la fin pour lui dire qu'il y arrivera jamais. Il y a ce personnage de Mastroianni, je suis assez partagée sur le jeu, mais qui est vraiment alourdi par une forme de mélancolie profonde, qui est du coup un personnage totalement romantique. On comprend pas bien ce que ça vient faire là. En fait, moi je pense, à l'inverse de vous Fabienne, que c'est pas justement, c'est pas un sous-texte, c'est pas un sous-matériau, c'est justement un matériau tellement énorme, à la fois ce scénario avorté, tout le mythe qui existe autour, parce que c'est un scénario co-signé avec Dino Buzzati, que ça a duré 30 ans, que la relation avec entre Mastroianni et Fellini s'est beaucoup articulée autour de ce projet-là, c'est trop, je pense, vraiment, je pense qu'elle est submergée, et que du coup, elle essaye de nous dire des choses sur le cinéma de Fellini, sur le cinéma en général, sur ce que le théâtre peut faire du cinéma sur scène, et tout ça est à la fois un peu brouillon et très didactique. Moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. C'est à la fois, on veut nous dire des choses.
Qu'est-ce que ça vous a dit alors?
Bah, moi, ça m'a dit beaucoup de choses. C'est ce que je vous disais sur ces clichés du romantisme de l'auteur qui s'en sort plus. Voilà, bien sûr. Mais du coup, c'est très didactique de ce point de vue-là. On comprend très bien. Vous disiez, on comprend rien. Moi, je trouve qu'on comprend justement presque trop.
Bah, quand je comprends des bêtises, moi, ça ne m'intéresse
pas. Non, mais n'espérez pas, Lucille, faire sortir Fabienne de sa mauvaise foi légendaire. Elle aura réponse à tout, vous savez. Mais non, la grande différence avec un des spectacles précédents qui était comme une pierre qui, de Marie Raymond et Sébastien Poudreau et de la bande du Français, sur cette chanson de Bob Dylan, c'était une session d'enregistrement, vous vous souvenez de ce spectacle, c'est des ceux qui ne l'ont pas vu, donc on est dans un studio d'enregistrement, Bob Dylan a une crise artistique, cherche, propose des choses à ses musiciens, c'est l'album Sacrilège, hein, parce qu'il se met à l'électrique, et il y a cette chanson qui va devenir une chanson que tout le monde, ou presque, connaît. Là, elle a voulu peut-être reprendre la même chose, sauf que le fait est qu'il n'y ait pas de film au bout. Et le problème, je pense, il est là. Alors du coup, elle joue avec d'autres films de Fellini, parce que Fellini, il a peut-être raté son scénario, mais n'empêche que ce scénario, il irrigue tous les films qui vont suivre de Fellini. Il y a très longtemps, avec Michel Bouger, on avait fait une émission autour de ce film inachevé. Et c'est vrai qu'on voit que le plus évident, c'est La Cité des Femmes pour cette déambulation de Mastroianni dans un monde, on ne sait pas s'il est chez les vivants ou chez les morts. Et donc, il y a quelque chose de cet aspect fantomatique que moi j'ai trouvé très juste dans ce spectacle, que je dois être le seul à avoir apprécié autour de cette table. Donc finalement, l'espace bifrontal, je vous l'accorde, Fabienne Pascaud ne m'a pas semblé apporter quoi que ce soit, plutôt une gêne qu'autre chose. Mais sinon, moi, je trouve qu'il y a quand même un esprit. Je suis content qu'on parle de Fellini, qui est quand même dans un purgatoire. Vous et moi, Fabienne, qui sommes les plus anciens dans ce studio, on sait que Fellini, de son vivant, c'était considéré comme le plus grand cinéaste du monde. Il est totalement oublié aujourd'hui.
Il y a une petite rétrospective à la cinéma.
Non, mais c'est quand même la moindre des choses, mais c'est rien, parce qu'il y a cette expo Fellini-Picasso. Il faut sortir Picasso pour parler un peu de Fellini. Vous rendez compte où on en est? Non, mais il y a ce purgatoire, et je me dis que si ça attire quand même l'attention de quelques-unes et quelques-uns.
Lucide, comment? Je suis pas sûr.
Surtout, c'est vraiment un peu le Fellini pour les nuls, hein, parce que moi,
je
connais quand même un tout petit peu Fellini.
Ben vous, oui, mais vous êtes exceptionnel,
Lucide. On entend la musique, on connaît le mieux des clowns de Nino Rota. On nous met un peu de talc pour faire de la brume, pour nous montrer que c'est un peu onirique, Fellini. Enfin, en fait, c'est ça le problème aussi, à mon avis, du spectacle. C'est qu'on aimerait rentrer dans la chair du cinéma de Fellini. Et il y a plein de choses à faire au théâtre, à mon avis. Parce que le théâtre de Fellini, il est nourri de théâtre. Donc,
on l'a dans cette terre hébétée que trimballe Laurent Lafitte tout du long. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'incompréhension de cet homme qui ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Le Fellini de Serge Bagdasarian, il est formidable, mais ce n'est pas du tout Fellini. Mais je trouve que pour le coup, le comédien, enfin moi, le jour où je l'ai vu, je l'ai trouvé absolument formidable, non? Jean-Christophe Briançon, jetez-moi un peu.
Il a rien de Fellini, juste un grand Serge Bagdasarian qui fait très bien son travail en ce qui me concerne, que je trouve assez éblouissant, mais il a rien de Fellini, effectivement. Et comme le disait Lucille, moi je suis assez d'accord sur le fait que les choses arrivent un petit peu d'une certaine manière en trouée comme ça qui abonde d'un coup, vous voyez, l'aspect fantomatique. du projet va arriver de manière comme ça, pendant une minute, deux minutes, bam, on va nous en mettre plein la tronche pour nous montrer ici, on est à la frontière entre les vivants et les morts. Bon, et puis donc tout est un petit peu, voilà, un peu construit de manière pas forcément très fine. Malgré tout, j'insiste pour dire que je pense que ce projet est très intéressant, exactement de la même manière que le scénario de Fellini était intéressant dans l'idée, cette pièce est intéressante dans l'idée.
Lucille Comeau, pour terminer, oui. Pendant que Fabienne Pascaud se marre.
Oui. On parle d'une des comédiennes qui est Georgia Scalier, qui est extrêmement drôle, qui joue un personnage très drôle d'actrice qui sert à tout et qui en fait fait que des hôtesses d'accueil, hôtesses de gare, hôtesses d'avion. C'est très drôle ça, et pour le coup, quand c'est vraiment du bon burlesque franc, bah, ça fonctionne très bien, c'est simple et puis c'est drôle.
Bon, bah, tant qu'à y être, dire que Jennifer Decker, elle est formidable aussi. Voilà.
Tout le monde.
Non, tout le monde. Non, mais puisqu'on en cite une, autant en citer une autre. Le voyage de G. Mastorna, que Fabienne Pascaud va retourner voir.
Sûrement pas.
C'est un spectacle de Marie-Raymond à voir jusqu'au 5 mai à la Comédie Française dans sa salle du Vieux Colombier. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et j'ai la joie d'avoir à mes côtés Aïssa Toundoy qui va nous rappeler la question du jeu de vendredi soir.
Dans quel pays, non, ça commence bien, dans quel pays Alex Maioli a-t-il commencé sa carrière de photojournaliste? Et la réponse était l'ex-Yougoslavie.
Ce soir, nous faisons gagner des DVD, les DVD du film Mirai, ma petite sœur, de Mamoru Hosada, distribué par Wild Bunch. Quelle est la question, Aïssatou?
À quel manga animé culte du studio japonais Toei, Mamoru Hosoda, a-t-il participé à ses débuts en 1993?
Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez par courriel. Avec vos coordonnées postales, ce sera plus simple pour vous envoyer les DVD. Tout cela, vous l'envoyez donc par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. La prise de son, Alexandre Dang. Réalisation, Émilie Valade. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Site sur lequel vous pouvez aussi réécouter cette émission et vous abonner à son podcast. On se retrouve demain à 19h, une dispute un peu spéciale puisqu'elle sera consacrée au musicien Scott Walker, mort le 22 mars, à qui nous rendrons hommage et on espère le faire mieux connaître. Nous serons accompagnés de Clémentine Golsal, Christophe Comte et Olivier Lame.